Vous écoutez RTL.
Merci Denis Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Le 14 mars prochain débute la semaine des mathématiques. Mais pourquoi donc glorifier une matière qui a désespéré des générations d'élèves? Parce que nous, Français, sommes champions du monde des maths. Bonsoir Lucas Bretonnier.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste au Parisien Magazine qui publie un dossier passionnant sur ce thème en partenariat avec RTL. Vous étiez bon en maths hein?
J'étais pas des plus mauvais, pas le meilleur non plus.
Bon, on en a un dans le studio RTL au moins, qui était pas trop mauvais en maths. Pour comprendre pourquoi la France est matheuse, faut pousser la porte de l'Institut Henri Poincaré. C'est où, c'est à Paris ?
C'est à Paris, c'est rue Pierre et Marie Curie. Ouais. C'est à côté de la rue d'Ulm, là où se trouve l'école nationale supérieure, la fameuse. Donc c'est une espèce de campus en quelque sorte, au cœur du quartier latin. C'est un peu la maison des mathématiques. C'est Cédric Villani, notre mathématicien national, qui l'a baptisé comme ça dans un ouvrage. Donc c'est une grande maison, c'est presque une auberge de jeunesse des matheux, parce qu'en fait elle rassemble beaucoup de mathématiciens du monde entier. Et c'est là qu'ils se rencontrent et qu'ils font de la recherche évidemment, mais qu'ils discutent entre eux et qu'ils élaborent des théorèmes complexes.
Ouais, alors celui qui dirige cet institut, vous avez dit son nom, il fait beaucoup pour dépoussiérer l'image des maths en France, Cédric Villani. C'est qui ?
Alors Cédric Villani, c'est un mathématicien de 41 ans, français. C'est un génie de la discipline. Il a eu la médaille Fields en 2010. Donc pour qu'on comprenne, c'est le prix Nobel de la discipline, la médaille Fields.
Elle est décernée tous les 4 ans. Il n'y a pas de prix Nobel de maths, c'est ça ?
Non.
Voilà, il y a toutes les autres disciplines et il y a la médaille Fields.
Il y a la médaille Fields qui est décernée tous les 4 ans. Donc Cédric Villani l'a eu en 2010. Ça l'a rendu célèbre, il l'était déjà un petit peu. Ce qui l'a rendu célèbre, c'est aussi son look et son genre très atypique.
Alors décrivez-le, il ressemble à quoi ?
Alors il a des airs très romantiques comme ça. C'est un garçon filiforme, les cheveux bruns mi-longs, et il a surtout un habillement très particulier, notamment cette fameuse lavalière, qui est une espèce de cravate à mi-chemin entre la cravate et le nœud papillon, en fait, un peu volumineux et très coloré en soie. Une broche en forme d'araignée sur le côté de sa veste, et il a comme ça un air de poète maudit.
Côté Alfred de Musset, en fait.
Un côté Alfred de Musset, effectivement. Et il parle des mathématiques avec beaucoup d'emphase et il vulgarise très bien.
Alors justement, on va écouter Cédric Villani parler de cette passion pour les maths.
Très important pour les mathématiques. Premièrement, il ne faut pas en avoir peur. Les mathématiques, c'est abstrait, mais ça reprend des phénomènes, des concepts concrets. Hein, on compte au départ, ou on étudie, on regarde la nature, là il y a des concepts mathématiques qui arrivent derrière. Ensuite, mathématiques, plus important, c'est de comprendre. Si vous ne savez pas vos formules, si vous plantez dans les opérations, bon, c'est pas très bien, mais c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est comprendre les concepts. Et quand on ne comprend pas, il faut demander, et il ne faut pas hésiter.
Mais vous me dites quoi, là, les maths, c'est la vie, d'une certaine façon ?
Ouais, c'est pas mal ça comme formule. Les maths, c'est la vie. Les maths, ça reproduit, c'est une représentation abstraite du monde, mais c'est bien une représentation du monde dans lequel on vit.
Très important.
Voilà, Cédric Villani, avec Yves Calvi, évidemment, sur RTL. Lucas Bretonnier, donc il a remporté la médaille Fields, le prix Nobel de mathématiques en 2010. Deux ans après, Cédric Villani il publie un livre, Théorème vivant. Ça marche, un livre sur les maths ?
C'est très étonnant. Ça a étonné l'éditeur, Grasset, ça a étonné certains des observateurs. Ça marche puisqu'il s'est vendu à plus de 60 000 exemplaires, hein, donc c'est quand même un sacré succès. Et surtout,
on commence à parler de succès en édition à quoi ? 10-15 000, c'est ça à peu près. Donc c'est un grand succès.
Imaginez. Et surtout pour un thème comme les mathématiques qui, vous le disiez en préambule, est rebutant pour la plupart des gens. Je pense qu'un des secrets, c'est à la fois la personnalité de Villani et également le fait qu'il ait construit son récit, c'est-à-dire deux ans de recherche mathématique à la manière d'un carnet de route, donc de manière presque romancée et puis presque un roman d'aventure, j'allais dire.
Et alors c'est vrai que les Français sont champions du monde des maths. J'ai commencé en disant ça, cette médaille Fields, on l'a souvent remportée.
C'est pas la première, on l'a remportée, si je ne m'abuse, à 12 reprises. Pour vous donner une idée, les États-Unis ne l'ont remportée qu'une fois de plus, 13 fois. 13 ou 14, j'ai un doute, mais je crois que c'est 13.
On fait le match avec les Américains.
Exactement, on étalonne de très très près. C'est même un paradoxe parce qu'en fait, les étudiants, les écoliers français ne sont pas excellents en mathématiques, mais on a une élite qui n'est peut-être pas très nombreuse, mais très performante, puisqu'elle a remporté 12 fois la médaille Fields.
Lucas Bretonnier, vous publiez cet article sur les maths dans le Parisien Magazine à l'occasion de la semaine des maths. Qu'est-ce qui va se passer?
Alors la semaine des maths, c'est un petit peu comme toutes ces semaines thématiques. Hein, c'est une manière de faire la publicité de cette discipline mal aimée. Mmh. Concrètement, pour faire bref, ça va être partout en France pendant une semaine. Des expositions, des jeux, des ateliers, des rallyes, plein de choses. Surtout pour vulgariser et donner envie et rendre accessible cette matière, encore une fois, mal aimée.
Oui, mal aimé. En tout cas, celui qui veut faire aimer les maths, c'est Cédric Villani. Il a une drôle d'idée, il veut ouvrir un musée. On va vous le faire visiter en avant-première, d'une certaine façon.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Et ce soir, dans La Curiosité, on se réconcilie avec les maths. C'est la matière qui vous a fait souffrir au collège. Pourtant, en France, on est les meilleurs. C'est ce que nous explique notre invité, Lucas Bretonnier, journaliste au Parisien Magazine, qui publie un dossier en partenariat avec RTL à l'occasion de la Semaine des maths qui démarre le 14 mars prochain. On parlait tout à l'heure de Cédric Villani avec son look excentrique, sa passion communicative pour les maths, médaille Fields, on l'a dit, l'équivalent du Nobel des maths en 2010. Donc c'est tous les 4 ans. Je crois que c'est aussi un Français qui l'a gagné l'année dernière, c'est ça? C'est un Franco-Brésilien?
Effectivement, son nom
Arthur Avila,
effectivement,
c'est ça?
Voilà. Alors lui, pour le coup, c'est un petit peu le playboy des maths, c'est-à-dire il a vraiment un physique avantageux, il est franco-brésilien, il fait du surf, ouais. Il est musclé, il prend des photos de lui en t-shirt sur les réseaux sociaux, et effectivement, c'est vraiment le visage, le beau gosse de la discipline. Et il a 35 ans et il dirige, il est un institut de recherche, enfin, il dirige au CNRS des recherches.
Mais justement, qu'est-ce qu'ils deviennent ces mathématiciens de génie? Quel métier font-ils? Est-ce qu'on les retrouve par exemple à la bourse?
Effectivement, on les retrouve à la bourse. Alors, ça a participé d'ailleurs au changement d'image des matheux, j'allais dire. C'est-à-dire que l'image du prof, l'image un peu poussiéreuse du professeur a changé un peu. Il y a effectivement ce jeune mathématicien. Et puis, il y a toute cette jeune garde à la City, souvent française d'ailleurs. On a une école en maths qui est assez porteuse. Ils vont donc à la City et ils conçoivent, alors c'est complexe à expliquer, mais des algorithmes qui permettent aux banques d'améliorer leur rendement financier, par exemple.
Mais ils ne sont pas un petit peu responsables de la crise financière de 2008, ces systèmes-là qu'on ne maîtrisait plus?
Effectivement, on peut leur imputer une part de responsabilité. Alors, les mathématiciens, pas forcément, leurs modèles peut-être, et surtout l'utilisation de ces modèles. C'est-à-dire que, en fait, ces algorithmes sont efficaces, mais il faut les encadrer et veiller à leur fonctionnement. Et je pense que, par exemple, on peut citer les subprimes comme exemple, donc ces fameux crédits immobiliers qui ont précipité la crise en 2008. Mmh. Tous ces subprimes étaient basés sur des algorithmes, donc des modèles. Tant que l'immobilier, les prix de l'immobilier croissaient, le modèle fonctionnait parfaitement. Or, à un moment donné, c'est le principe des bulles, les prix de l'immobilier se sont effondrés, et on a l'impression effectivement qu'on a continué à appliquer le modèle comme si de rien n'était. Donc effectivement, la chute a été précipitée.
Et le château de cartes, en quelque sorte, s'est effondré. Lucas Bretonnier, vous nous faites découvrir le monde des maths et l'excellence française en la matière, et Cédric Villani, dont on parle, qui est le directeur de l'Institut Henri Poincaré, qui forme des générations de matheux de génie en France depuis très longtemps. Alors il veut ouvrir un musée. Pour cela, il s'inspire d'un modèle allemand, un musée des maths qui se trouve où en Allemagne?
Alors il se trouve à Gießen.
C'est où
Gießen,
ça?
C'est une ville au nord de Francfort.
Mmh. Il ressemble à quoi ce musée?
Eh ben, ce musée, en fait, alors ils ont le nom de musée, ce sont des musées, ce sont surtout des espèces, j'allais dire, d'aires de jeu, de grandes aires de jeu. Notre journaliste Sylvie Buis s'est rendue sur place. Alors en fait, c'est très ludique, c'est-à-dire qu'elle a joué hein, réellement avec des formes en caoutchouc, plein de formes géométriques et des accessoires, et de telle manière à ce que petit à petit, sans presque qu'elles s'en rendent compte, elles parviennent à faire des mathématiques en quelque sorte. C'est une manière presque d'inverser la logique, c'est-à-dire que vous n'avez pas l'impression que vous faites des maths, vous jouez, petit à petit vous essayez de résoudre une énigme, vous essayez de construire une forme géométrique, vous y parvenez, et on vous dit bravo, vous avez fait des mathématiques en quelque sorte.
D'accord, donc les maths ludiques, c'est possible?
C'est possible, c'est vraiment le pari de ce musée.
Il y a même des expériences sur son propre corps, c'est ça? Où on peut trouver un nombre en...
Le fameux nombre d'or.
Oui, alors c'est quoi ça?
Alors, le nombre d'or, si je ne m'abuse, c'est une espèce de... C'est une proportion, en fait, en quelque sorte, qui a été assez utilisée, notamment en architecture. On dit que les pyramides en Égypte ou le Parthénon à Athènes ont été... ont été plus ou moins conçus grâce à ce fameux nombre d'or. Et on cite aussi le fameux dessin de Léonard de Vinci avec les proportions de l'homme idéal. Donc effectivement, il y a une appropriation de ces concepts abstraits par les visiteurs du
sur leur propre corps, musée, en fait. Ils peuvent se tester. Est-ce que ça marche?
Ça marche très bien.
Allons bon.
Très très bien.
Le musée des maths, ça marche en Allemagne.
Encore une surprise. Ouais. 120 000 visiteurs par an dans une ville qui compte 60 000 habitants. C'est assez impressionnant. Et ça marche tellement bien que ça a donc inspiré Cédric Villani qui veut créer le même à Paris dans quelques années.
Ouais, et alors le créateur de ce musée en Allemagne dit qu'il donne confiance aux visiteurs. Comment ça?
Bah, c'est ce qu'on expliquait, c'est-à-dire que c'est peut-être aussi ce qui explique le fait que les écoliers français soient pas si bons que ça, c'est que on associe les mathématiques à la contrainte. C'est une manière de noter les élèves, puisque c'est une façon très efficace de quantifier les progrès d'un élève.
Et de les sélectionner, c'est vrai, jusqu'en première année de médecine où c'est les maths qui prime pour la sélection.
Donc ça participe un petit peu à l'angoisse que beaucoup ont connue avec cette discipline.
J'en transpire encore, je crois que j'ai une goutte qui est en train de perler là sur mon front.
Et puis c'est une discipline abstraite également, c'est-à-dire qu'en plus on l'enseigne de manière abstraite. Ce qu'a fait ce monsieur en Allemagne, c'est qu'il a fait tout l'inverse. Il les a rendus non pas contraignants mais ludiques, et non pas abstraits mais extrêmement concrets. Et donc la barrière psychologique a été rompue comme ça.
Cédric Villani qui a même joué au cinéma, enfin presque, je sais pas si vous vous souvenez du film d'Arnaud Desplechin, Un conte de Noël, avec Hippolyte Girardot qui interprétait justement un mathématicien de génie qui avait eu la médaille Fields. Et ben les équations qu'on voyait sur le tableau derrière lui dans le film, c'était Cédric Villani qui les avait rédigées. Les maths inspirent les artistes, le cinéma, la télé, la musique, la peinture. On vous raconte comment sur RTL
20h-22h, Thomas Hugues, Denis Bonnec.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Les maths, un casse-tête pour des générations d'écoliers. Mais une formule gagnante pour la France qui produit depuis longtemps les meilleurs mathématiciens mondiaux. On fait le match, c'est ce qu'on disait avec notre invité Lucas Bretonnier, avec les Américains depuis des années. La formule gagnante, c'est d'ailleurs le titre de votre article apparaître vendredi dans le Parisien Magazine, en partenariat avec RTL. Les maths, on la cote par exemple au cinéma avec le film Imitation Game, qui raconte l'histoire de ce mathématicien anglais Alan Turing qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, a réussi à percer le secret de la machine de cryptage allemande Enigma. On écoute un extrait de la bande-annonce.
C'est magnifique. C'est le système de cryptage le plus génial de l'histoire. Les Allemands l'utilisent pour toutes leurs communications stratégiques.
Tout le monde pense qu'Enigma est indéchiffrable.
Laissez-moi essayer, comme ça nous en serons sûrs. Je suis en train de concevoir une machine qui nous permettra de déchiffrer tous les messages codés, tous les jours, en un instant.
Film superbe, que je vous conseille d'aller voir. Lucas Bretonnier, c'est quel rôle il joue les maths, en fait?
Dans ce film?
Oui.
On pourrait presque dire celui de sauveur, puisque, comme vous l'avez résumé, le mathématicien Alan Turing décrypte le système de codage de cet engin de communication allemand, donc Enigma. Et c'est, on lui doit, les alliés lui doivent une fière chandelle, j'allais dire.
Oui, et ça a raccourci en fait la durée de la guerre de 2 ans, et donc économisé des millions de vies. Est-ce qu'on peut dire qu'Alan Turing a en quelque sorte inventé le premier ordinateur?
On peut le dire, il a été juste après la guerre le premier à concevoir un projet d'ordinateur, et ensuite à Manchester il a dirigé des travaux qui allaient dans ce sens-là d'intelligence artificielle. Il a même, je crois, créé un programme de jeu d'échecs. On est dans les années 50.
Ouais, Alan Turing qui a été condamné pour son homosexualité dans cette Angleterre des années 50, qui s'est suicidé en mangeant une pomme empoisonnée au cyanure. Alors je croyais dur comme fer que le nom et le logo d'Apple, une pomme croquée, était un hommage rendu à Alan Turing. Mais alors je me suis renseigné, c'est pas aussi sûr. Ce serait peut-être plutôt un hommage à Newton, c'est ça?
Effectivement, c'est une thèse séduisante, la première, mais il semblerait que ce Newton soit davantage l'inspirateur de ce logo de...
Mais pourquoi elle est croquée, la pomme, à ce moment-là?
Alors, je pense tout simplement que les graphistes ont voulu qu'on différencie bien le logo d'un autre fruit, comme une tomate ou une cerise.
On pourrait croire que... Oui, mais ça s'appelle Apple en même temps.
Exactement.
Mais bon, en tout cas, voilà, a priori, la légende... On écrit souvent la légende quand elle est plus belle que la vérité, mais bon, là, elle est un petit peu trop belle, cette légende. Ce qui est sûr, c'est que les maths sont au centre de cette révolution numérique qu'on vit tous depuis des années, qui transforme notre quotidien. Les big data, par exemple, Lucas Bretonnier, c'est quoi?
Alors les big data, c'est un terme un peu barbare. Ça désigne en fait une quantité astronomique de données. Et l'informatique aujourd'hui, notamment les réseaux sociaux, embrasse des millions. Mmh. Facebook, c'est je crois 50 milliards, j'ai presque peur de me tromper d'un zéro, de photos par exemple. C'est un milliard d'utilisateurs, on le sait bien, même mm-hmm. plus. Des supermarchés maintenant, on a tous des cartes de membres, les enseignes savent ce qu'on consomme, etc. Et ces millions de données, il faut bien qu'on puisse les traiter. Et à partir du moment où on peut les traiter, eh bien on peut dresser le profil d'un consommateur, on peut même jusqu'à dire qu'on peut parfois prévoir ou prédire en quelque sorte des comportements et même des événements.
C'est-à-dire on peut même prédire des crimes ou des délits. J'ai lu ça, il y a certaines villes qui utilisent un logiciel de prédiction.
Effectivement, il y a une ville en Californie, Santa Cruz, mais je crois même que Los Angeles l'a adopté, mais j'en suis pas certain. En tout cas, la Californie et la ville de Santa Cruz, il y a quelques années déjà, s'est équipée d'un algorithme qui permet de, embrassant justement ces très nombreuses données, c'est-à-dire les lieux qui comptent le plus de crimes, mm-hmm. les heures, les mois, les jours, embrassant toutes ces données, eh bien, on peut cibler davantage les lieux et les moments criminogènes, j'allais dire. Et donc, les forces de police se concentrent sur ces zones et ces moments.
Ça fait penser au film Minority Report, évidemment, avec Tom Cruise, les maths qui inspirent le cinéma, on vient de le voir, et des artistes depuis très longtemps. Vous avez parlé de Léonard de Vinci tout à l'heure. Jean-Sébastien Bach aussi, comment utilisait-il les maths?
Alors, Bach et d'autres, comme Béla Bartok, un autre compositeur. Alors, c'est compliqué. Je ne suis pas certain qu'il fasse à l'époque des équations pour composer. Mais la musique a un aspect assez mathématique. Hein. Mm-hmm. Un piano est accordé de manière très précise. Et pour composer une partition, eh bien, il y a des octaves et en quelque sorte, presque, j'allais dire, des chiffres ou des notions de mathématiques. Et Bach est
du rythme, de la symétrie, par exemple.
Bach en est l'exemple parfait parce que ses mélodies se répondent. Il y a une symétrie dans la construction des mélodies de Bach qui est vraiment un maître en la matière. Et on pourrait dire un des compositeurs les plus matheux, je ne sais pas si on peut dire ça.
Oui, on peut dire ça. Bach et les maths et la musique, voilà, c'est à lire dans ce dossier passionnant dans le Parisien Magazine, à apparaître ce vendredi, à lire ce week-end évidemment. Merci beaucoup Lucas Bretonnier, article signé Sylvie Buy dans le Parisien Magazine en partenariat avec RTL. Dans un instant, une grande dame de la mode, Jeanne Lanvin. Comment la petite main qui a commencé à travailler à l'âge de 13 ans a-t-elle créé la plus ancienne maison de couture française? On vous raconte son histoire ce soir sur RTL.